Chapitre 2 Explication. En vérité, il était temps que le justicier arrivât. Dans le maelstrom parisien, cette petite femme tourbillonnait éperdument. Maintenue par sa légèreté même, elle surnageait encore. Mais ses dépenses exagérées, le luxe qu'elle affichait, le mépris qu'elle avait de plus en plus des moindres convenances, tout annonçait qu'elle sombrerait bientôt, entraînant après elle l'honneur de son mari et peut-être aussi la fortune et le nom d'une maison considérable, ruinée par ses démences. Le milieu où elle vivait maintenant hâtait encore sa perte. À Paris, dans ces quartiers de petits commerçants qui ont de véritables provinces malveillantes et bavardes, elle était obligée à plus de ménagement, mais dans sa maison d'Asnières, entourée de chalets, de cabotins, de ménages interlopes, de calicots en vacances, elle ne se gênait plus. Il y avait autour d'elle une atmosphère de vice qui lui allait et qu'elle respirait sans dégoût. La musique du bal l'amusait le soir dans son petit jardin. Un coup de pistolet tiré dans la maison voisine une nuit et qui occupa tout le pays d'une intrigue banale et sotte, la fit rêver d'aventures semblables. Elle aurait voulu avoir des histoires, elle aussi. Ne gardant plus aucune mesure dans son langage, dans sa tenue, les jours où elle ne se promenait pas sur le quai d'Asnières, en jupe courte, la canne haute à la main, comme une élégante de Trouville ou d'Houlgate, elle restait chez elle, en peignoir, pareille à ses voisines, absolument inactive, s'occupant à peine de sa maison où on la volait comme une cocotte sans qu'elle s'en sût rien. Cette même femme qu'on voyait passer à cheval tous les matins restait des heures entières à causer avec sa bonne des ménages étranges qui l'entouraient. Petit à petit, elle revenait à son ancien niveau et même au-dessous. De la bourgeoise riche, bien posée, où son mariage l'avait élevée, elle dégringolait au rang de femme entretenue. À force de voyager en wagon avec des filles bizarrement accoutrées, les cheveux sur les yeux à la chien ou flottant dans le dos à la Geneviève de Brabant, elle finit par leur ressembler. Elle se fit blonde pendant 2 mois, au grand étonnement de Rissler, tout étonné qu'on lui eût changé sa poupée. Quant à Georges, toutes ses excentricités l'amusaient, lui faisaient trouver 10 femmes dans la même. C'était lui le vrai mari, le maître de la maison. Pour distraire Sidonie, il lui avait procuré un semblant de société, ses amis garçons, quelques commerçants rêveurs, viveurs aussi, presque jamais de femmes. Les femmes ont de trop bons yeux. Madame Dobson était l'unique amie. On organisait de grands dîners, des promenades sur l'eau, des feux d'artifice. De jour en jour, la situation du pauvre Rissler devenait plus ridicule, plus choquante. Quand il arrivait le soir, éreinté et mal vêtu, il lui fallait monter vite à sa chambre, faire un brin de toilette. « Nous avons du monde à dîner, » lui disait sa femme, « dépêchez-vous !» Et il se mettait à table, le dernier, après une poignée de main circulaire à ses invités, des amis de Frobon Jeune, dont il connaissait à peine les noms. Chose singulière, les affaires de la fabrique se traitaient souvent à cette table où Georges amenait ses connaissances du cercle avec l'assurance tranquille du monsieur qui paye. Déjeuners et dîners d'affaires. Aux yeux de Rissler, ce mot-là expliquait tout. La présence continuelle de l'associé, le choix des convives et les merveilleuses toilettes de Sidonie qui se faisaient belles et coquettes dans l'intérêt de la maison. Cette coquetterie de sa maîtresse mettait le jeune Fremont au désespoir. À toute heure du jour, il arrivait pour la surprendre, inquiet, méfiant, craignant de laisser longtemps à elle-même cette nature dissimulée et pervertie. « Que devient donc ton mari ?» demandait le père Gardinois d'un ton goguenard à sa petite fille. Pourquoi y a-t-il pas plus souvent ? Claire excusait Georges, mais cet abandon constant commençait à l'inquiéter. Maintenant, elle pleurait en recevant ces petits bouts de lettres, ces dépêches qui lui arrivaient journellement à l'heure des repas. « Ne m'attends pas ce soir, cher ami, je ne pourrai venir à Savigny que demain ou après-demain par le train de nuit. » Alors elle mangeait tristement en face d'une place vide et, sans se savoir trompée, sentait que son mari se déshabituait d'elle. Il était si distrait quand une fête de famille ou quelque autre circonstance le retenait forcément à la maison, si muet sur ce qui l'occupait. Claire, n'ayant plus avec Sidonie que des relations très lointaines, ne savait rien de ce qui se passait à Asnières. Mais lorsque Georges repartait pressé, souriant, elle tourmentait sa solitude de soupçons inavoués et, comme ceux qui attendent un grand chagrin, se sentait tout à coup un vide immense au cœur, une place prête pour les catastrophes. Son mari n'était guère plus heureux qu'elle. Cette cruelle Sidonie semblait prendre plaisir à le tourmenter. Elle se laissait faire la cour par tout le monde. En ce moment, un certain Casabon, dit Casaboni, ténor italien de Toulouse, présenté par Madame Dobson, venait tous les jours chanter des duos inquiétants. Georges, très jaloux, courait à Asnières dans l'après-midi, négligeait tout, et déjà commençait à trouver que Risler ne surveillait pas assez sa femme. Il l'aurait voulu aveugle seulement à son égard. Oh, s'il avait été le mari, lui, comme il vous l'aurait tenu! Mais il n'avait pas de droit sur elle, et on ne se gênait pas pour le lui dire. Quelquefois aussi, avec cette invincible logique qui pousse souvent au plus sot, il pensait que, trompant lui-même, peut-être méritait-il d'être trompé. Triste vie, en somme, que la sienne. Il passait son temps à courir les bijoutiers et les marchands d'étoffes, à lui inventer des cadeaux, des surprises. Ce qu'il la connaissait bien, allez. Il savait qu'on pouvait l'amuser avec des bijoux, non la retenir, et que le jour où elle s'ennuierait... Sidonie ne s'ennuyait pas encore. Elle avait l'existence qu'il lui fallait, tout le bonheur qu'elle pouvait atteindre. Son amour pour Georges n'avait rien d'enflammant ni de romanesque. Il était pour elle comme un second mari, plus jeune et surtout plus riche que l'autre. Pour achever d'embourgeoiser leur adultère, elle avait attiré ses parents à Asnières, les logeait dans une petite maison tout au bout du pays, et de ce père vaniteux et volontairement aveugle, de cette mère tendre et toujours éblouie, elle se faisait un entourage d'honorabilité dont elle sentait le besoin à mesure qu'elle se perdait davantage. Tout était bien arrangé dans cette petite tête perverse qui résonnait froidement le vice. Et il semblait que sa vie dût continuer ainsi tranquillement quand Franz Risler arriva tout à coup. Rien qu'à le voir entrer, elle avait compris que son repos était menacé et qu'il allait se passer entre eux quelque chose de très grave. À la minute, son plan fut fait. Maintenant, il s'agissait de le mettre en œuvre. Le pavillon où il venait d'entrer, une grande pièce circulaire dont les quatre fenêtres regardaient des paysages différents, était meublé pour les siestes d'été, pour les heures chaudes où l'on cherche un refuge contre le soleil et les bourdonnements du jardin. Un large divan très bas en faisait le tour. Une petite table de laque très basse aussi traînait au milieu, chargé de numéros dépareillés de journaux mondains. Les tentures étaient fraîches et les dessins de la Perse des oiseaux volant parmi les roseaux bleuâtres, faisait bien l'effet d'un rêve d'été, une image légère flottant devant les yeux qui se ferment. Les stores abaissés, la natte étendue sur le parquet, le jasmin de Virginie qui s'entrelaçait au décor tout le long du feuillage, entretenait une grande fraîcheur accrue par le bruit voisin de la rivière, sans cesse remuée et l'éclaboussement de ses petites vagues sur la berge. Sidonie, sitôt entrée, s'assit en renvoyant sa longue jupe blanche qui s'abattit comme une tombée de neige au bas du divan. Et les yeux clairs, la bouche souriante, penchant un peu sa petite tête dont le nœud de côté augmentait encore la mutinerie capricieuse, elle attendit. Franz, très pâle, restait debout, regardant autour de lui. Puis, au bout d'un moment, « Je vous fais mon compliment, madame, » dit-il, « vous vous entendez au confortable. » Et tout de suite, comme s'il avait craint que, prise de si loin, la conversation n'arrivât pas assez vite où il voulait l'amener, il reprit brutalement. « Mais à qui devez-vous tout ce luxe? Est-ce à votre mari ou à votre amant ?» Sans bouger du divan, sans même lever les yeux sur lui, elle répondit « À tous les deux ?» Il fut un peu déconcerté par tant d'aplomb. « Alors vous avouez donc que cet homme est votre amant ?»« Tiens, parbleu !» Franz la regarda une minute sans parler. Elle avait pâli, elle aussi, malgré son calme, et l'éternel petit sourire ne frétillait plus au coin de la bouche. Alors lui, « Écoutez-moi bien, Sidonie, le nom de mon frère, ce nom qu'il a donné à sa femme, est le mien aussi. Puisque Risler est assez fou, assez aveugle, pour le laisser déshonorer par vous, c'est à moi qu'il appartient de le défendre contre vos atteintes. Donc je vous engage à prévenir M. Fromont qu'il est à changer de maîtresse au plus vite et qu'il aille se faire ruiner ailleurs, sinon... » « Sinon ?» demanda Sidonie, qui, pendant qu'il parlait, n'avait cessé de jouer avec ses bagues. « Eh bien, sinon, j'avertis mon frère de ce qui se passe chez lui. Vous serez surprise du Risler que vous connaîtrez alors, aussi violent, aussi redoutable qu'il est inoffensif d'ordinaire. Ma révélation le tuera peut-être, mais vous pouvez être sûr qu'il vous tuera avant. » Elle haussa les épaules. « Qu'il me tue, qu'est-ce que ça me fait ?» Ce fut dit d'un air si navré, si détaché de tout, que Franz, malgré lui, se sentit un peu de pitié pour cette belle créature, jeune, heureuse, qui parlait de mourir avec un tel abandon d'elle-même. « Vous l'aimez donc bien ?» lui dit-il d'une voix déjà vaguement radoucie. « Vous l'aimez donc bien, ce Fromont, que vous préférez mourir que de renoncer à lui ?» Elle se redressa vivement. « Moi, aimer ce gardin, ce chiffon, cette fille niaise habillée en homme, allons donc. Bon, j'ai pris celui-là comme j'en aurais pris un autre. Mais pourquoi ? Ben, parce qu'il le fallait, parce que j'étais folle, parce que j'avais dans le cœur... et que j'y ai encore, un amour criminel, que je veux arracher, n'importe à quel prix. » Elle s'était levée, et lui parlait les yeux dans les yeux, la bouche près de la sienne, frémissante de tout son être. Un amour criminel, mais qui aimait-elle donc? Franz avait peur de la questionner. Sans se douter de rien encore, il comprenait que ce regard, ce souffle penché vers lui, allait lui révéler quelque chose de terrible. Mais sa fonction de justicier l'obligeait à tout savoir. Qui est-ce? Demanda-t-il. Elle répondit d'une voix sourde. Mais vous savez bien que c'est vous. Elle était la femme de son frère. Depuis 2 ans, il n'avait jamais plus pensé à elle que comme à une sœur. Pour lui, la femme de son frère ne ressemblait plus en rien à son ancienne fiancée. Et c'eût été commettre un crime de reconnaître un seul trait de son visage, celle à qui autrefois il avait dit si souvent « Je vous aime ». Et maintenant, c'est elle qui lui disait qu'elle l'aimait. Le malheureux justicier resta atterré, étourdi, ne trouvant pas un mot à répondre. Elle, en face de lui, attendait. Il faisait un de ces jours de printemps pleins de fièvre et de soleil, où la buée des anciennes pluies met comme une mollesse, une mélancolie singulière. L'air était tiède, parfumé de fleurs nouvelles, qui par ce premier jour de chaleur embaumait violemment comme des violettes dans un manchon. De ses hautes fenêtres entr'ouvertes, la pièce où ils étaient respirait toute cette griserie d'odeurs. Au dehors, on entendait les orgues du dimanche, des appels lointains sur la rivière et plus près, dans le jardin, la voix amoureuse et pâmée de Madame Thompson qui soupirait. On dit que tu te maries, tu sais que j'en puis mourir. Oui, France, je vous ai toujours aimé, disait Sidonie. Cet amour auquel j'ai renoncé autrefois parce que j'étais jeune fille et que les jeunes filles ne savent pas ce qu'elles font, cet amour, rien n'a pu l'effacer en moi, ni l'amoindrir. Quand j'appris que Désirée vous aimait aussi, elle, si malheureuse, si déshéritée, dans un grand mouvement généreux, je voulus faire le bonheur de sa vie en sacrifiant la mienne. Et tout de suite, je vous repoussais pour que vous alliez à elle. Ah, dès que vous avez été loin, j'ai compris que le sacrifice était au-dessus de mes forces. Pauvre petite Désirée, l'ai-je assez maudite dans le fond de mon cœur? Le croiriez-vous, mais depuis cette époque-là, j'ai évité de la voir, de la rencontrer. Sa vue me faisait trop de peine. Mais si vous m'aimiez, demanda Franz tout bas, si vous m'aimiez, pourquoi avez-vous épousé mon frère? Elle ne sourcilla pas. Épouser Risler, c'était me rapprocher de vous. Je me disais, je n'ai pas pu être sa femme, eh bien, je deviendrai sa sœur. Au moins comme cela, il me sera permis de l'aimer encore. Et nous ne passerons pas toute notre vie étrangers l'un à l'autre. Hélas, ce sont là de ces rêves naïfs que l'on fait à 20 ans et dont l'expérience nous montre le néant bien vite. Je n'ai pas pu vous aimer comme une sœur, Franz. Je n'ai pas pu vous oublier non plus. Mon mariage m'en empêchait. Avec un autre mari, j'y serais peut-être parvenu, mais avec Risler, c'était terrible. Il me parlait toujours de vous, de vos succès, de votre avenir. Franz disait ceci, Franz faisait cela. Il vous aime tant, le pauvre ami. Et puis ce qui était le plus cruel pour moi, votre frère vous ressemble. Il y a dans votre démarche, dans vos traits, comme un air de famille, dans votre voix surtout, puisque souvent, je ferme les yeux sous ses caresses en me disant, c'est lui, c'est France. Mais quand j'ai vu que cette pensée criminelle devenait un tourment, une obsession, j'ai cherché à m'étourdir. J'ai consenti à écouter ce Georges qui me poursuivait depuis longtemps, alors à changer ma vie, à la faire bouillante, agitée. Mais je vous le jure, France, dans ce tourbillon de plaisir où je m'emportais, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Et si quelqu'un avait le droit de venir ici me demander compte de ma conduite, Certes, ce n'était pas vous qui, sans le vouloir, m'avez fait ce que je suis. » Elle se tut. Franz n'osait plus lever les yeux sur elle. Depuis un moment, il la trouvait trop belle, trop désirable. Mais c'était la femme de son frère. Il n'osait pas parler non plus. Le malheureux sentait que l'ancienne passion se réinstallait despotiquement dans son cœur et que maintenant, regard, parole, tout ce qui irait de lui serait amour. Et c'était la femme de son frère. Oh, malheureux, malheureux que nous sommes, dit le pauvre justicier en se laissant tomber à côté d'elle sur le divan. Ces quelques mots étaient déjà une lâcheté, un commencement d'abandon, comme si la destinée, en se montrant si cruelle, lui avait ôté la force de se défendre. Sidonie avait posé sa main sur la sienne. « Franz, Franz !» Et ils restaient là, l'un contre l'autre, silencieux et brûlants, bercés par la romance de Madame Thompson, qui leur arrivait par bouffées à travers les massifs. « Ton amour, c'est ma folie, hélas, je n'en puis guérir !» Tout à coup, la grande taille de Risler se dressa devant la porte. « Par ici, Cheb, par ici, ils sont dans le pavillon !» En même temps, le brave homme entra, escorté de son beau-père et de sa belle-mère, qu'il était allé les chercher. Il eut un moment d'effusion et d'innombrables accolades. Il fallait voir de quel air protecteur M. Cheb examinait le grand garçon qui avait la tête et les épaules de plus que lui. « Eh bien, mon petit, ça va-t-il comme vous voulez, ce canal de Suez ?» Madame Cheb, pour qui Franz était toujours resté un peu son futur gendre, l'embrassait à tour de bras, pendant que Risler, maladroit à son ordinaire dans ses gaietés et ses expansions, faisait de grands gestes sur le perron, parlait de tuer plusieurs veaux gras pour le retour de l'enfant prodigue, et d'une voix bruyante qui devait retentir dans tous les jardins environnants, criait à la maîtresse de chant. Madame Thompson, Madame Thompson, sans vous commander, c'est trop triste que vous chantez là. Au diable, expression pour aujourd'hui. Jouez-nous donc plutôt quelque chose de bien gai, de bien dansant, que je fasse faire un tour de valse à Madame Cheb. Risler, Risler, êtes-vous fou, mon gendre? Allô, allô, maman, il le faut, allez hop! Lourdement, autour des allées, il entraînait dans une valse automatique à 6 temps, une vraie valse de Vaucanson, la belle maman essoufflée, qui s'arrêtait à chaque pas pour amener dans leur ordre habituel les bribes dénouées de son chapeau et les dentelles de son châle, son beau châle de la noce de Sidonie. Il était saoul de joie, ce pauvre Risler. Pour Franz, ce fut une longue et inoubliable journée d'angoisse. Promenade en voiture, promenade sur l'eau, goûter sur l'herbe dans l'île des ravageurs, on ne lui épargna aucun des charmes d'Asnières. Et tout le temps, au grand soleil de la route, à la réverbération des vagues, il fallait rire, bavarder, raconter son voyage, parler de l'isthme de Suède, des travaux entrepris, écouter les plaintes secrètes de M. Cheb, toujours furieux contre ses enfants, les détails de son frère sur la primeuse. Rotative, mon petit Brans, rotative et dodécacone. Sidonie laissait ces messieurs causer entre eux et semblait absorbé dans des réflexions profondes. De temps en temps, elle jetait un mot, un sourire triste à Madame Thompson, et Franz, sans oser la regarder elle-même, suivait les mouvements de son ombrelle doublée de bleu, le floconnement de sa robe. Combien elle avait changé en 2 ans, comme elle était devenue belle. Puis il lui venait d'horribles pensées. Il y avait courses à Longchamp ce jour-là. Des voitures passaient près de la leur, la frôlaient, conduites par des femmes au visage peint, serrées dans des voiles étroits. Immobiles sur leur siège, elles tenaient leur grand fouet bien droit, avec des gestes de poupée, et rien ne paraissait vivant en elles que leurs yeux charbonnés, fixés à la tête des chevaux. Sur leur passage, on se retournait. Tous les regards les suivaient, comme entraînés dans le vent de leur course. Sidonie ressemblait à ces créatures. Elle aurait pu elle-même conduire aussi la voiture de Georges, car Franz était dans la voiture de Georges. Il avait bu le vin de Georges. Tout ce luxe dont on jouissait en famille venait de Georges. C'était honteux, révoltant. Mais il aurait voulu le crier à son frère. Il le devait même, étant venu exprès pour cela. Mais il ne s'en sentait plus le courage. Ah, le malheureux justicier! Le soir, après dîner, dans le salon ouvert à l'air frais de la rivière, Rissler pria sa femme de chanter. Il voulait qu'elle montrât à Franz tous ses nouveaux talents. Appuyée au piano, Sidonie se défendait d'un air triste, pendant que Madame Thompson préludait en agitant ses longues anglaises. « Je ne sais rien, que voulez-vous que je vous chante ?» Elle finit pourtant par se décider. Pâle, désenchantée, envolée au-dessus des choses, à la lueur tremblante des bougies qui semblaient brûler des parfums, tellement les lilas et les jacinthes du jardin embaumaient, elle commença une chanson créole, très populaire à la Louisiane, et que Madame Thompson elle-même avait transcrite pour chant et piano. « Pauvre petite mamselle Zizi, c'est l'amour qui tourne la tête à lit. » Et en disant l'histoire de cette malheureuse petite Zizi que la passion a rendue folle, Sidonie avait bien l'air d'une malade d'amour. Avec quelle expression déchirante, quel cri de colombe blessée, elle reprenait ce refrain si mélancolique et si doux à entendre dans le patois enfantin des colonies. C'est l'amour qui tourne la tête à lit. Il y avait de quoi le rendre fou lui aussi, le malheureux justicier. Eh bien non. La sirène avait mal choisi sa romance. Voilà qu'à ce nom seul de Mamselle Zizi, Franz se trouvait transporté tout à coup dans une chambre triste du marais, bien loin du salon de Sidonie, et la pitié de son cœur évoquait l'image de cette petite désirée de Lobel qu'il aimait depuis si longtemps. Jusqu'à 15 ans, on ne l'avait jamais appelée autrement que Zirée ou Zizi. Et c'était bien elle, la pauvre petite Zizi de la chanson créole, l'amante toujours délaissée, toujours fidèle. L'autre avait beau chanter maintenant, Franz ne l'entendait plus, ne la voyait plus. Il était là-bas, auprès du grand fauteuil, sur la petite chaise basse, où il avait veillé si souvent, en attendant le père. Oui, le salut était là pour lui, rien que là. Il fallait se réfugier dans l'amour de cet enfant, si je t'ai encore perdu, lui dire « Prends-moi, sauve-moi !» Et qui sait, elle l'aimait tant. Peut-être qu'elle le sauverait, le guérirait de sa passion coupable. « Où vas-tu ? » demanda Rissler en voyant son frère se lever précipitamment. Sitôt la dernière ritournelle finie. « Bon, je m'en vais, il est tard. »« Comment? Tu ne couches pas ici, mais ta chambre est prête. Toute prête, ajouta Sidonie, avec un regard singulier. Il se défendit vivement. Sa présence à Paris était indispensable pour certaines missions très importantes dont la compagnie l'avait chargé. On essayait encore de le retenir, qu'il était déjà dans l'antichambre, traversait le jardin au clair de lune, et parmi toutes les rumeurs d'Asnières, s'en allait vers la gare en courant. Quand il fut parti, Risler montait dans sa chambre, Sidonie et Madame Dobson s'attardèrent aux fenêtres du salon. La musique du casino voisin leur arrivait avec les hauts et les canotiers et le bruit des danses, pareil à un mouvement de tambourin rythmé et sourd. « Ben voilà, trouble fête !» disait Madame Dobson. « Oh, je l'ai maté !» répondait Sidonie. « Seulement, il faut que je prenne garde. Je serai très surveillé maintenant, il est si jaloux. Je vais écrire à Calzaboni de ne plus venir pendant quelque temps. Et toi, demain matin, tu diras à Georges d'aller passer 15 jours à Savigny. » Chapitre 3. Pauvre petite mamselle Zizi. Oh, que Désirée était heureuse! Franz venait chaque jour s'asseoir à ses pieds, comme au bon temps, sur la petite chaise basse, et ce n'était plus pour lui parler de Sidonie. Le matin, dès qu'elle se mettait à l'ouvrage, elle voyait la porte s'entrouvrir doucement. « Bonjour, mademoiselle Zizi !» Il l'appelait toujours ainsi maintenant, de son nom de petite fille. Et si vous saviez, comme il disait cela gentiment, « Bonjour, mademoiselle Zizi !» Le soir, ils attendaient le père ensemble, et pendant qu'elle travaillait, il la faisait frémir avec le récit de ses voyages. « Mais qu'est-ce que tu as donc? Tu n'es plus la même, » lui disait la maman de Lobel, étonnée de l'avoir si gaie et surtout si remuante. Le fait est qu'au lieu de rester comme autrefois, sans cesse enfoncé dans son fauteuil avec un renoncement de jeune grand-mère, la petite boiteuse se levait à chaque instant, allait vers la croisée d'un élan comme s'il lui poussait les ailes, s'exerçait à se tenir debout, bien droite, demandant tout bas à sa mère « Est-ce que ça se voit quand je ne marche pas ?» De sa jolie petite tête, où elle s'était concentrée jusqu'alors dans l'arrangement de la coiffure, sa coquetterie se répandait sur toute sa personne, comme ses longs cheveux frisés et fins quand elle les dénouait. C'est qu'elle était très très coquette à présent, et tout le monde s'en apercevait bien. Les oiseaux et mouches, pour mode, avaient pour eux-mêmes un petit air tout à fait particulier. Oh oui, Désirée de Lobel était heureuse. Depuis quelques jours, M. Franz parlait d'aller tous ensemble à la campagne. Et comme le père, toujours si bon, si généreux, voulait bien consentir à laisser prendre à ces dames un jour de congé, ils partirent tous les quatre un dimanche matin. On ne peut pas se figurer le beau temps qu'il faisait ce jour-là. Quand Désiré ouvrit sa fenêtre dès 6 heures, que dans la brume matinale elle vit le soleil déjà chaud et lumineux, qu'elle songea aux arbres, aux champs, aux routes, à toute cette miraculeuse nature qu'elle n'avait pas vue depuis si longtemps et qu'elle allait voir au bras de Franz, les larmes lui en vinrent aux yeux. Les cloches qui sonnaient, les bruits de Paris montant déjà du pavé des rues, l'endimanchement, cette fête du pauvre, qui éclaircit jusqu'au jour des petits charbonniers, toute l'aurore de ce matin exceptionnel fut savourée par elle longuement et délicieusement. La veille au soir, Franz lui avait apporté une ombrelle, une petite ombrelle à manches d'ivoire. Avec cela, elle s'était arrangée une toilette très soignée, mais très simple, comme il convient à une pauvre petite infirme qui veut passer sans être vue. Et ce n'est pas assez de dire que la pauvre petite infirme était charmante. À 9 heures très précises, Franz arriva avec un fiacre à la journée et monta pour prendre ses invités. Mlle Zizi descendit coquettement, toute seule, appuyée à la rampe, sans hésiter. Maman de Lobel venait derrière elle en la surveillant. Et l'illustre comédien, son paletot sur le bras, s'élança en avant avec le jeune Rissler pour ouvrir la portière. Oh, la bonne course en voiture, le beau pays, la belle rivière, les beaux arbres. Ne lui demandez pas où c'était, Désirée ne l'a jamais su. Seulement elle vous dira que le soleil était plus brillant dans cet endroit-là que partout ailleurs, les oiseaux plus gais, les bois plus profonds, et elle ne mentira pas. Toute petite, elle avait eu quelquefois de séjours de grand air et de longues promenades champêtres. Mais plus tard, le travail constant, la misère, la vie sédentaire, si douce aux infirmes, l'avaient tenue comme clouée dans le vieux quartier de Paris qu'elle habitait, et dont les toits hauts, les fenêtres à balcons de fer, les cheminées de fabrique, tranchant du rouge de leurs briques neuves sur les murs noirs des hôtels historiques, lui faisait un horizon toujours pareil et suffisant. Depuis longtemps, elle ne connaissait plus en fête de fleurs que les volubilis de sa croisée, en fête d'arbres que les acacias de l'usine. Entrevue de loin dans la fumée. Aussi quelle joie gonfla son cœur quand elle se trouva en pleine campagne. Légère de tout son plaisir de sa jeunesse ranimée, elle allait d'étonnement en étonnement, battant des mains, poussant de petits cris d'oiseaux, et les élans de sa curiosité naïve dissimulaient l'hésitation de sa démarche. Positivement, ça ne se voyait pas trop. D'ailleurs, Franz était toujours là, prêt à la soutenir, à lui donner la main pour franchir les fossés, et si empressé, les yeux si tendres. Cette merveilleuse journée passa comme une vision. Le grand ciel bleu flottant vaporeusement entre les branches, ces horizons de sous-bois qui s'étendent au pied des arbres abrités et mystérieux, où les fleurs poussent plus droites et plus hautes, où les mousses dorées semblent des rayons de soleil au tronc des chênes, la surprise lumineuse des clairières, tout jusqu'à la lassitude d'une journée de marche au grand air, la ravit et la charma. Vers le soir, quand à la lisière de la forêt, elle vit, sous le jour qui tombait, les routes blanches éparses dans la campagne, la rivière comme un galon d'argent, et là-bas, dans l'écart des deux collines, un brouillard de toits gris, de flèches et de coupoles, qu'on lui dit être Paris, elle emporta de regard dans un coin de sa mémoire tout ce paysage fleuri, parfumé d'amour et d'aubépine de juin, comme si jamais, plus jamais, elle ne devait le revoir. Le bouquet que la petite boiteuse avait rapporté de cette belle promenade parfuma sa chambre pendant 8 jours. Il s'y mêlait parmi les jacinthes, les violettes, les pines blanches, une foule de petites fleurs innommées, ces fleurs des humbles que les garennes voyageuses font pousser un peu partout au bord des routes. En regardant ces minces corolles bleu pâle, rose vif, toutes ces nuances si fines que les fleurs ont inventées avant les coloristes, bien des fois pendant ces 8 jours, Désiré refit sa promenade. Les violettes lui rappelaient le petit tertre de mousse où elle les avait cueillies, cherchées sous les feuilles en mêlant ses doigts à ceux de Franz. Ces grandes fleurs d'eau avaient été prises au bord d'un fossé, encore tout humide des pluies d'hiver, et pour atteindre, elle s'était appuyée bien fort au bras de Franz. Tous ces souvenirs lui revenaient en travaillant. Pendant ce temps-là, le soleil, qui entrait par la fenêtre ouverte, faisait tesseler les brumes des colibris. Le printemps, la jeunesse, les champs, les parfums transfiguraient ce triste atelier de 5e étage. Et Désirée disait sérieusement à la maman de Lobel, en respirant le bouquet de son amie, « As-tu remarqué, maman, comme les fleurs sentent bon cette année ?» Et Franz, lui aussi, commençait à être sous le charme. Peu à peu, Mlle Zizi s'emparait de son cœur et en chassait jusqu'au souvenir de Sidonie. Il est vrai que le pauvre justifié faisait bien tout pour cela. À toute heure du jour, il était auprès de Désirée et se serrait contre elle comme un enfant. Pas une fois il n'avait osé retourner à Asnières. L'autre lui faisait encore trop peur. « Viens donc un peu là-bas, Sidonie te réclame !» lui disait de temps en temps le brave Rissler quand il entrait le voir à la fabrique. Mais Franz tenait bon, prétextait toutes sortes d'affaires pour envoyer toujours sa visite au lendemain. C'était facile avec Rissler, plus que jamais occupé de son imprimeuse, dont on venait de commencer la fabrication. Chaque fois que Franz descendait de chez son frère, le vieux Sigismond le guettait au passage et faisait quelques pas dehors avec lui, en grande manche de lustrine, sa plume et son canif à la main. Il tenait le jeune homme au courant des affaires de la fabrique. Depuis quelque temps, les choses avaient l'air de marcher mieux. Monsieur Georges venait régulièrement à son bureau et rentrait couché tous les soirs à Savigny. On ne présentait plus de notes à la caisse. Il paraît que la madame, là-bas, se tenait aussi plus tranquille. Le caissier triomphait. « Tu vois, petit, si j'ai bien fait de t'avertir, il a suffi de ton arrivée pour que tout rentre dans l'ordre. C'est égal, » ajoutait le bonhomme emporté par l'habitude. « C'est égal, je n'ai pas confiance. » « N'ayez pas peur, monsieur Sigismond, je suis là, » disait le justicier. « Ah, tu pars pas encore, n'est-ce pas, mon petit Franz ?»« Oh non, non, pas encore. J'ai une grosse affaire à terminer auparavant. »« Ah, mais tant mieux !» La grosse affaire de Franz, c'était son mariage avec Désirée de Lobel. Il n'en avait encore parlé à personne, pas même à elle. Même Mlle Zizi devait se douter de quelque chose, car de jour en jour, elle devenait plus gaie et plus jolie, comme si elle prévoyait que le moment allait bientôt venir où elle aurait besoin de toute sa joie et de toute sa beauté. Ils étaient seuls dans l'atelier un après-midi de dimanche. La maman de Lobel venait de sortir, toute fière de se montrer une fois au bras de son grand homme, et laissant l'ami Franz près de sa fille pour lui tenir compagnie. Soigneusement vêtu, avec un air de fête répandu sur toute sa personne, Franz avait ce jour-là une physionomie singulière, à la fois timide et résolue, attendrie et solennelle, et rien qu'à la façon dont la petite chaise basse vint se mettre tout près du grand fauteuil, le grand fauteuil comprit qu'on avait une confidence très grave à lui faire, et il se doutait bien un peu de ce que c'était. La conversation commença d'abord par des paroles indifférentes qui s'interrompaient à chaque instant de longs silences, de même qu'en route on s'arrête au bout de chaque étape pour reprendre haleine vers le but du voyage. « Il fait beau aujourd'hui. Oh oui, bien beau. » « Notre bouquet sent toujours bon. Oh oui, bien bon. » Et rien que pour prononcer ces paroles si simples, leurs voix étaient émues de ce qui allait se dire tout à l'heure. Enfin, la petite chaise basse se rapprocha encore un peu plus du grand fauteuil, et croisant leurs regards, les mains entrelacées, les deux enfants s'appelèrent tout bas, lentement, par leur nom. « Ah, Désirée, Franz !» À ce moment, on frappa à la porte. C'était le petit coup discret d'une main finement gantée qui craint de se salir au moindre contact. « Entrez !» dit Désirée avec un léger mouvement d'impatience. et Sidonie parut, belle, coquette et bonne. Elle venait voir sa petite Zizi l'embrasser en passant. Depuis si longtemps, elle en avait envie. La présence de Franz sembla l'étonner beaucoup, et tout à la joie de causer avec son ancien ami, on le regarda à peine. Après des effusions, des caresses, de bonnes causeries du temps passé, elle voulut revoir la fenêtre du palier, le logement des Rissler. Cela l'amusait de revivre ainsi toute sa jeunesse. Vous rappelez-vous, Franz, quand la princesse Colibri entrait dans votre chambre, sa petite tête bien droite sous un diadème en plume d'oiseau ? Franz ne répondait pas. Il était trop ému pour répondre. Quelque chose l'avertissait que c'était pour lui seul, que cette femme venait, qu'elle voulait le revoir, l'empêcher d'être à une autre. Et le malheureux s'apercevait avec terreur qu'elle n'aurait pas grand effort à faire pour cela. Rien qu'en la voyant entrer, tout son cœur avait été repris. Désirée ne se doutait de rien, elle. Sidonie avait l'air si franc, si amical. Et puis maintenant, ils étaient frères et sœurs. Il n'y avait plus d'amour possible entre eux. Pourtant, la petite boiteuse eut un vague pressentiment de son malheur lorsque Sidonie, déjà sur la porte et prête à partir, se tourna négligemment pour dire à son beau-frère « À propos, Franz, je suis chargé par Rissler de vous emmener dîner ce soir avec nous. La voiture est en bas. Nous allons le prendre en passant à la fabrique. » Puis, avec le plus joli sourire du monde, « Tu veux bien nous le laisser, n'est-ce pas, Ziré ? Sois tranquille, nous te le rendrons. » Et il eut le courage de s'en aller, l'ingrat. Il partit sans hésiter, sans se retourner une fois, emporté par sa passion comme par une mer furieuse. Et ce jour-là, ni les jours suivants, ni plus jamais dans la suite, le grand fauteuil de Mlle Zizi ne put savoir ce que la petite chaise basse avait de si intéressant à lui dire.